Brest.
Le seul nom de cette ville merveilleuse, dont Louis-Marie avait parfois entendu parler, l'enchantait et adoucissait sa peine.
Il se retourna une dernière fois afin d'apercevoir le village de pêcheurs.
Un instant, il crut revoir son père à la porte de la cabane.
Il poursuivit sa route, seul, le nez baissé vers ses souliers.
Les clients du Bon Chien Jaune.
Une fiction sonore des cinquièmes mains de l'Arte-Loire, adaptée de Pierre Macorlan.
À l'époque où commence ce récit, en 1756, j'avais 14 ans. J'étais un jeune et robuste léonard, plutôt trapu et rouquin quant à la couleur de mes cheveux. J'ai grandi dans un village de pêcheurs, de goémoniers et de pilleurs d'épaves. À 7 ans, je faisais mes premières courses en mer, sur la barque de mon père. Et à 12 ans, je savais hisser la grand voile. J'ignore si ça m'est utile, désormais.
Louis-Marie arriva à Brest avant la tombée de la nuit.
Les maisons sont hautes ici. J'ai jamais vu autant de fenêtres. Et tout le monde a l'air bien nourri.
Il se faufilait entre les chariots chargés de sacs de blé, les femmes en riches costumes, les marins et la foule des paysans en bras coubrases qui se rendaient au marché.
Ses sabots résonnaient joyeusement sur le pavé.
Le nez en l'air, il s'émerveillait des choses jusqu'à en oublier à peu près le but de son voyage.
Tiens mon mignon, tu vas endosser ces vêtements. Demain tu prendras la route qui mène à Brest. Tu y trouveras ton oncle et tu lui diras que ton père est mort en mer.
Tu t'es perdu mon petit ?
Je cherche le frère de mon père qui tient l'auberge du Bon Chien Jaune.
Madouette, j'ai pas peu faro à son âge de demander cette adresse.
C'est par là, va, tout au bout de la Venelle, devant le mur d'enceinte du grand collège.
Merci.
Louis-Marie entra dans une ruelle malpropre qui serpentait entre des masures branlantes.
J'appréhendais fort d'adresser la parole à mon oncle Bénique. Je ne connaissais pas la vie, mais j'étais riche en instincts, ainsi qu'une petite bête sauvage. Et l'un de ces instincts m'avertissait que j'allais pénétrer dans quelque chose de trouble.
Qu'y a-t-il pour votre service, mon bon petit jeune homme ?
Monsieur, je viens de la part de votre défunt frère. Je suis robuste et je pourrais travailler pour vous.
Alors Yann Bénic est mort ? Bon, entrez. Je vais en tout cas vous offrir du pain, du lard et du cidre.
J'entrai derrière lui, dans l'auberge, et mes yeux durent s'habituer à l'obscurité qui y régnait, comme un brouillard sur un marécage. À cette heure-ci, il n'y avait personne. Je m'assis dans l'angle de la cheminée, où brûlait un maigre feu de tourbe, à côté de l'échelle qui permettait d'accéder à l'unique étage de la maison.
Et que voulez-vous faire, mon petit Bénic ? Bénic, comment ?
Je m'appelle Louis Mareux, mon oncle. Je voudrais devenir marin, mon oncle.
Un marin ? D'abord, appelle-moi Monsieur Bénic, c'est mieux pour la clientèle. Il y a ici une servante nommée Anne. Et il me faut un garçon dévoué pour l'aider. Il faut voir, entendre, et surtout ne rien dire. Un neveu muet comme un thon ? Voilà ce qu'il me faut. En tout cas, vous m'avez l'air d'être bien doué sous le rapport de l'appétit. Bon, je vais vous montrer la chambre et vous montrer ces sabots et ces grègues de paysans.
À vrai dire, l'étage ressemblait beaucoup à un grenier. Mais auprès de la masure où j'avais grandi, cette auberge sordide m'apparaissait comme un palais.
Vous y dormirez comme un roi, à condition de vous réveiller dès la première heure du jour.
Hé, Bénic, apporte-moi une autre bière !
Ah, voilà Pain Noir. Écoute, petit gars, reste bien sagement ici et repose-toi.
Somme toute, l'aventure ne se terminait pas trop mal.
L'oncle se montrait plutôt d'un aspect engageant.
Il était rond comme une courte tour et gras comme un loir à la saison des fruits.
Je m'endormais en me demandant qui était ce Pain Noir.
Il est 6h et tout va bien.
Au bout d'une dizaine de jours et de nuits, je devins un parfait garçon d'auberge. Je commençais à rôder dans Brest et à Recouvrance, un gros bourg de l'autre côté de la Pinfeld. Anne m'avait montré comment me défendre en ville et au bon chien jaune.
Il faut pas avoir peur des clients. Ce sont des forçats qui viennent du bagne. Le grand collège, comme ils l'appellent. C'est le haut mur juste derrière l'auberge. Là, tu vois ?
Anne lui raconta qu'en faisant semblant de dormir, elle écoutait les conversations dans l'auberge.
On y parlait peu le breton. Par contre, la langue d'argot y régnait en maître.
Les gardes chiourmes, censés surveiller les corvées, ne valaient souvent pas mieux que les forçats.
Ils trafiquaient avec l'oncle Bénic.
On lui vendait des petits bateaux enfermés dans des bouteilles.
Ou des tabatières ouvragées par les bagnards.
Et l'oncle les revendait avec profit aux bourgeois de Brest.
Et chacun touche sa part du bénéfice.
Tiens Anne, mon petit, tu me mettras un litron de schiste.
Virmoutier, avec sa tête de vieille tortue cruelle, était le forçat pour qui j'éprouvais la plus grande amitié. C'est lui qui m'expliqua les mystères de l'argot et fut mon triste professeur.
Une épidémie ravage les bas quartiers de Brest, où personne n'ose plus s'aventurer. Des corvées de forçats, comme moi, sont envoyées relever les cadavres allongés le long des portes. On peint des croix blanches sur les maisons et on creuse des fosses mortuaires remplies de chaux vives. Tout ça sous la garde des argousins, des surveillants du bagne. Une autre chopine, mon fanandel, avec un bout de larton savonné.
J'appris bientôt des chansons de voleurs et de marins. On me faisait monter sur une table, Anne me tendait un verre, et les poings sur les hanches, je chantais. Le nom de Pain Noir que j'avais entendu le premier soir était connu et revenait souvent dans les conversations que j'entendais au milieu des matelots. Ce soir-là, je surpris une discussion entre lui et l'oncle Bénic.
Il me faut 20 morts de grippe sous, sans quoi tu n'auras pas ta part.
Je ne mettrai pas plus de 5 écus par mort.
Ah, Bénic, tu seras toujours le même.
Tout cela me paraissait peu clair. Mais je connaissais maintenant beaucoup de choses. Je n'étais plus le petit paysan de Kerninon. Ce fut Anne qui me réveilla. Comme on entendait sur la rade les fifres et les tambours qui battaient et sonnaient le branle-bas à bord des bâtiments du roi.
C'est dimanche, la clientèle ne se montrera pas.
Quand il y avait fête sur les vaisseaux du roi, les forçats ne sortaient pas dans la ville.
Et toute la population se portait devant le château qui dominait la rade.
L'oncle Bénic déplia son habit de cérémonie et sa culotte de velours.
Je vais faire une course.
Il se fit la barbe et se coiffa d'un vieux tricorne.
Il prit sa canne.
Anne, vous gardez la maison.
Et nous confia le bon chien jaune.
Ah, oui, Marie. Voici une lettre qu'il faut remettre en main propre à Monsieur Pain Noir.
Et surtout, faites-moi le plaisir de la cacher dans la basque de votre habit.
Il lui présenta une grande enveloppe blanche qui portait 5 cachets de cire.
Et si Pain Noir n'est pas chez lui ?
Eh bien, vous attendrez.
Mon excellent oncle ignorait sans doute que je savais faire sauter un cachet de cire sans l'abîmer. Mais tout d'abord, il me fallait provoquer l'absence de Pain Noir. Un galopin que je connaissais se chargea d'aller prévenir le matelot. qu'on l'attendait dans un cabaret de recouvrance. Ma ruse réussit et je savais que Pain Noir ne reviendrait pas, sans avoir vidé une ou deux bouteilles. J'étais tranquille et m'appliquai donc à soulever les 5 cachets soigneusement, comme Virmoutier me l'avait appris. C'est une question de patience quand on connaît le procédé. En vérité, très simple. Mais n'attendez pas que je le révèle ici.
Louis-Marie parvint au bout de sa tâche, non sans avoir tiré la langue avec application.
Je viens ce soir à minuit, il y aura 7 morts.
7 morts pour le prochain départ?
Prochain départ de la Grâce-Marie. Hé hé, sacré bénique.
Alors que Pain Noir terminait de lire la lettre, sans se douter de rien, Louis-Marie était de retour au Bon Chien Jaune, préparant un plan pour assister sans être vu à l'arrivée de ces morts qui lui donnaient la fièvre.
J'entendis mon oncle ouvrir tout doucement la porte de la rue. J'en profitai pour me glisser le long d'une poutre, à l'étage. J'étais à peine installé que deux hommes pénétrèrent dans la grande salle.
Tiens, Pain Noir, ça ne nous rajeunit pas.
À la place de cadavres, ils étaient 7 dans la salle, 7 hommes bien vivants.
Salons tes pistoles, tes écus et tes livres, Bénic, et verse du rhum à tous ces bons garçons. Les morts du Hollandais volant, des femmes coquins, s'ils te ressemblent tous.
Vous embarquerez après-demain, au petit jour, sur la chaloupe, grâce de Marie. Soyez joyeux et n'oubliez pas que les bavards, dans ces sortes d'entreprises, sont souvent promus à bénir la foule avec les pieds pendus, haut et court.
L'oncle prit un sac de toile assez lourd.
Il en sortit des pièces d'or et compta à chacun sa part.
Alors, pour cette mort...
J'avais vu les fameux morts. C'était d'incontestables bandits. La grâce de Marie, un petit brick ancré dans le port de Brest, m'offrait les clés d'une aventure qui faisait bouillir mon sang.
Quand il s'endormit, Louis-Marie savait déjà ce qu'il allait faire.
Tiens, ça vient du château. Un forçat s'est évadé du bagne cette nuit.
Il y a de la viande dans le pot-au-feu. Vous mangerez sans attendre. Je reviendrai la nuit.
Dès que l'oncle eut tourné le coin de la rue, Louis-Marie prit une gibecière et y enferma du pain, du fromage, du sucre et une fiole d'eau-de-vie.
Puis compléta son équipement d'un solide couteau de matelot.
Cette arme me donna une confiance extraordinaire. Je venais d'atteindre mes 16 ans, j'étais solide et souple comme un jeune chêne, et je ne craignais rien, si ce n'est les apparences humaines qui errent la nuit dans certains endroits prédestinés.
Où étais-tu ? J'ai fait toute ta besogne. Le jour tombe. Aide-moi à ranger, on ferme le cabaret.
Louis-Marie put s'enfuir dans le crépuscule sans que personne ne s'en doutât.
J'arrivai à Port-Saint après 1000 difficultés.
Car il n'y voyait pas à 2 pouces dans cette nuit affreusement sombre.
La grâce de Marie était embossée à quelques encablures de l'Élorne.
Ah bon ? En voici un autre qui l'embarque tout de suite avec vous. Par ici !
Louis-Marie saisit sa chance, s'approchant d'eux en riant.
Je suis pourtant bien jeune pour faire un mort. Dépêche-toi d'embarquer, le canot est prêt.
Deux matelots sous quai ferme sur les avirons.
La masse sombre de la grâce de Marie surgit tout à coup à notre droite.
On nous jeta un filin et je grimpai le premier, comme une araignée.
C'est un choc, bande de flancs !
Je pus me soustraire à une rencontre trop prompte avec Pain Noir, en grimpant dans la voilure. Je craignais d'être débarqué si ma situation venait à être dévoilée avant qu'on fût loin de terre.
Ils passèrent devant Saint-Mathieu, dont la lanterne brillait faiblement dans la nuit, puis longèrent la terre vers le Conquet.
Allez, souk !
Une bonne prise les poussait vent arrière. Ils durent ralentir leur course car la navigation dans les parages était particulièrement dangereuse.
J'étais à la manœuvre et tant bien que mal, je me rappelais les conseils de mon père.
Hé, hey, les matelots ! Oui, toi ! Descends un peu par ici !
Le jour s'était levé et Pain Noir avait reconnu le jeune serveur du bon chien jaune.
Par quel hasard es-tu ici ? C'est l'histoire que je voudrais bien connaître. Alors c'est toi, l'homme en croix. C'est ce vilain petit cabillaud, le neveu de Bénic.
Anne, dans les ruelles de Brest, avait appris à Louis-Marie l'habitude de la décision.
Pain Noir, je te connais moi aussi. Tu n'es qu'un sale petit poisson de rivière. Jette ton habit et prends comme moi ton couteau. On verra alors le jugement de Dieu.
Louis-Marie vit Pain Noir, blêmir et n'hésita pas une seconde.
Sans me servir de mon couteau, j'avais logé mes deux poings dans sa figure. Un pour chaque œil.
Surpris par la soudaineté de son attaque, d'autres matelots s'avançaient vers lui.
Il faut laisser ce petit. Il est brave et loyal. Et ne nous trahira jamais. Ferme ton couteau, Louis-Marie. Je me porte garant de ton honneur.
Ma foi, ce jeune ton me plaît. Il voit un homme. Ça fera un mort de plus sur le Hollandais des volants. S'il ne réussit pas, je le ferai passer par-dessus bord.
Voilà le capitaine que tu dois servir. Si tu es pris, tu seras pendu devant l'église Saint-Louis.
À vos postes !
Il s'approchait d'un petit village abandonné de pêcheurs qui ressemblait singulièrement au village natal de Louis-Marie, mais juché sur une falaise.
C'est là que nous allons donner à notre bateau une allure nouvelle. Plus conforme à ses destinées.
Là-bas, la grâce de Marie fut peinte en noir et blanc et devint le Hollandais volant.
C'est une idée de l'oncle Bénic. Il pense que ce vaisseau fantôme, ressurgi des enfers, nous aidera à piller les navires entre Bordeaux et l'Angleterre, dans les passages terrifiants qui entourent Ouessant.
Gentilhomme de fortune, vous êtes maintenant ici sur le Hollandais volant. Dont la réputation n'est plus à faire. Je réussis sur la Bible de Rackham, fidélité au pavillon noir.
Je jure.
Vous connaissez la coutume pour les parts de prise. Elles seront honnêtement respectées. Il faut également réserver une part pour l'armateur Monsieur Bénic, que le diable ait son âme et le reste.
Hourra ! Hourra ! Hourra !
Viremoutier, malgré son âme de bandit, savait l'anglais. L'espagnol et un peu de médecine.
C'est lui qui me parla des livres, et surtout de l'art de les écrire. J'appris vite mon métier de matelot, car j'aimais à grimper dans les mâts.
Il faut avoir navigué entre les îles du Finistère, avoir dansé au bout d'une vergue dans le Fromveur pour savoir ce que vaut la mer quand elle s'en mêle.
Il y avait déjà 3 semaines que nous promenions notre navire sans feu dans le brouillard, au milieu d'un véritable labyrinthe de récifs, quand la vigie signala une voile par notre bâbord.
Les morts ! Tous à vos postes !
Viremoutier, qui savait tout faire, monta un orgue sur le pont.
Les sons portaient loin sur la mer.
À ma profonde stupéfaction, je vis alors mes compagnons se dévêtir.
Ils passèrent une sorte de maillot noir où des bandes d'étoffe blanche dessinaient des os, des bras, du thorax, du bassin et des jambes, puis mirent sur leur visage un masque de cuir qui simulait une tête de mort.
Je fis comme eux, et bientôt je fus tel un mort effroyable accroché dans les haubans. le coutela entre les dents.
Le navire chassé, un brick de commerce, nous aperçut et tenta de prendre de l'avance en serrant le vent au plus près.
Mais les pirates gagnèrent de vitesse l'infortuné navire. Quand il nous vit, son équipage se jeta à genoux et leva les bras au ciel.
La musique lugubre de Viermoutier fit le reste.
Nous bondîmes à l'abordage comme des morts à l'assaut des vivants, sans tirer un coup de canon.
La nature est notre complice macabre.
Cette mascarade fantastique réussissait toujours et épargnait la dépense en munitions.
En général, nous ne gardions que les marchandises faciles à revendre, puis nous coulions les bâtiments capturés. Les prises étaient bonnes dans cette mer brumeuse autour d'Ouessant et de Molène, où les naufrages s'accumulaient en toute impunité.
Les équipages survivants étaient jetés à la mer.
Je restais secoué d'horreur devant ces forfaits perpétrés de sang-froid. Je ne supportais pas ces massacres et ne pouvais même pas me confier à Viermoutier. La vie à bord du Hollandais volant devenait d'une platitude ignoble et me plongeait dans une profonde mélancolie. Un matin, le fifre sonna le branle-bas de combat. Je sautai en bas de mon hamac et grimpai sur le pont rejoindre mes compagnons. Le soleil levant inondait la mer d'un flot d'or qui aveuglait l'équipage.
À midi, un bâtiment vient vers nous à pleine voilure.
Le capitaine Matthew Miles avait déjà revêtu son costume de squelette.
Hâtez-vous, fils de Satan. La journée sera chaude.
Le navire arborait pavillon français et ne cherchait pas à éviter le combat.
Il manœuvre pour nous prendre de flanc, du côté de son artillerie.
Patience! Attendons qu'il nous voie!
Tirez à pleine charge!
De longues traînées de fumée rampaient sur l'eau et nous empêchaient de voir. La brise fut longue à les dissiper.
À l'attaque!
Ils ne tardèrent pas à être maîtres de la situation.
Mais notre butin fut maigre. Et comme ils s'apprêtaient à regagner le Hollandais volant, nous vîmes au loin un autre navire, d'une taille imposante.
Ramassez le plus de cadavres possible et hissez-les à bord.
L'ordre fut exécuté.
Pas une minute à perdre.
Pêle-mêle, une dizaine de cadavres furent embarqués.
Compagnons, vous allez accrocher ces défunts dans la mâture. Cette fois-ci, le Hollandais volant sera défendu par de vrais morts.
Raidis par la mort, ils offraient des visages épouvantables. Parmi les trépassés se trouvait une jeune femme. Nous attachâmes son cadavre à l'avant.
Elle semblait la figure de proue du navire damné.
Surtout, ne tirez pas. C'est un navire espagnol. Nous ne sommes pas en force de résister.
Un silence énorme, angoissant, s'étendait sur la mer et dans le ciel. Nous demeurions raides, mêlés aux dépouilles de ceux que nous avions assassinés.
Ne bougez pas. Soyez comme les morts et laissez porter.
Le navire espagnol nous longea à bâbord.
Cinq canonniers, tenant des mèches allumées, semblaient pétrifiés.
Les officiers jetèrent leurs chapeaux et firent le signe de croix. L'équipage tomba à genoux. Et nous passâmes lentement devant eux.
Sainte mère de Dieu!
La nuit enveloppait la forme silencieuse du vaisseau fantôme. Un étrange malaise pesait sur nous. chacun regarder la mer.
Allons, secoue-toi. Tu as l'air plus mort que nos funèbres alliés.
Eh bien, nous l'avons échappé belle. Garçons, montez du rhum. Nous allons allumer un punch qui brûlera toute la nuit. J'invite le diable à se mêler fraternellement à nous. Mais auparavant, rangez-moi tous ces refroidis qui nous ont aidés. Ils furent à la peine, qu'ils soient à l'honneur.
Hourra ! Vive le capitaine !
Pour les gentilshommes de fortune du capitaine Miles, c'était une excellente plaisanterie.
Ils eurent tôt fait de dresser les cadavres en demi-cercle, contre les haubans et les bastingages. La jeune femme fut placée au milieu. Le spectacle devenait infernal à souhait.
La lune éclairait les visages livides et crispés par la mort violente.
Groupés face aux cadavres, nous regardions la liqueur enflammée retomber en cascade de feu vert et bleu.
Ils buvaient, se congratulaient niaisement et s'injuriaient comme des ivrognes.
Au capitaine !
Au capitaine !
Au capitaine !
L'air mélancolique se mêlait à notre ivresse et nous sentions couler en nous quelque chose qui nous rendait la vie amère.
Cette comédie infâme va nous porter malheur.
Mon père était un vrai matelot, mais lui craignait les morts et les respectait.
Dernier rhum, allez.
Le boss, comme anéanti, cuvait.
Je crois qu'elle a bougé.
Tout à coup, je me mis à frémir de la tête aux pieds.
La malédiction du Seigneur est sur nous.
La peur me mordait à la nuque.
De gros nuages livides et gonflés d'eau, comme des outres, couraient dans le ciel.
Nos nerfs étaient tendus et nos bouches sèches.
La bouche pâle de la mort s'entr'ouvrit. Ses paupières bleues se levèrent lentement et un regard aigu, surnaturel, nous pénétra le cœur comme un fer rouge.
Alors elle se leva et marcha comme un automate à la poupe. Puis prit le porte-voix du capitaine.
Appelez l'équipage au poste de manœuvre.
Nous ne pouvions en croire nos oreilles.
Le capitaine, dont les idées étaient troublées par les vapeurs de l'alcool, faisait peine à voir.
Nous ne sommes que de pauvres mariniers et ferons brûler sans cierge à Sainte-Anne d'Auray afin d'apaiser votre âme.
Tous les pirates baissèrent les épaules devant cette jeune divinité.
Leurs âmes abjectes voyaient dans cette résurrection le châtiment de leurs crimes.
C'est alors que les morts que nous avions abandonnés sur le pont se levèrent et le mousquet à la main nous tinrent à distance respectueuse.
Ils n'étaient que des soldats maquillés par ruse bien avant le combat de la veille.
Au petit jour, la mer s'apaisa et le doute n'était plus possible.
Le Hollandais volant naviguait dans le goulet de Brest.
Et devant eux, la rade rose et verte s'arrondissait dans la lumière du matin.
Un coup de canon tiré du château nous avertit que nous étions attendus. On nous fit descendre un par un sur le quai, à l'entrée de la Pinfeld.
La chevalière, comme l'appelaient les Brestois, debout à l'avant du Hollandais volant, saluait la foule en souriant.
À voir les brigands !
Il faut tout nier. Je dirais que tu étais parmi nous malgré toi.
Nous fûmes enfermés dans un souterrain humide, alignés contre la muraille et les pieds au fer. Mes compagnons furent tourmentés par le bourreau de Quimper.
Il leur fit avouer par le feu le nom de tous leurs complices.
La chevalière de Kergoès avait armé de ses propres écus un brigantin dont elle avait pris elle-même le commandement.
Elle s'était entièrement vouée à notre poursuite. Dans notre précipitation et l'ivresse qui suivit l'action, nous avions embarqué l'ennemi sur notre propre bâtiment.
Je n'ai qu'un seul regret, c'est de ne pas avoir bu le sang de cette coquine.
Il était venu du monde de toute la Bretagne pour assister au jugement.
Vous serez tous pendus sur les rives de Panfeld, devant les fenêtres du bagne, à titre d'exemple.
En entendant la sentence, je ne pus retenir mes larmes.
Mais ce pauvre enfant n'est pas le plus coupable. Je vous laisse intercéder en sa faveur auprès du roi de France. Lui seul peut lui accorder sa grâce.
Quelques semaines après le verdict, on dressait l'échafaud.
Chaque coup de maillet qui frappait une poutre m'entrait dans le cœur.
Demain matin, à 10h, vous serez 37 à bénir les badauds par les pieds.
La nuit fut pour Louis-Marie plus longue qu'un siècle.
Dès l'aube, une grande rumeur montait des quais.
Je voulais voir. Un étrange et puissant désir de voir me dominait.
Le roi, dans sa grande clémence, te donne la liberté. Tu es libre. Tu as jusqu'à demain minuit pour quitter Brest et aller te faire pendre ailleurs si tu ne choisis pas mieux tes amis.
Merci.
À 9h du matin, Louis-Marie était libre et il respirait l'air pur de la mer.
Je sautais presque de joie dans la rue, me faufilant au milieu de la foule qui se dirigeait vers le bagne. Devant le bon chien jaune, des hommes et des femmes ivres proféraient d'ignobles injures.
Sur les quais, il reconnut les gardes chiourmes, ancien client de son oncle qui s'apprêtait joyeusement à le voir pendre.
Un à un, à mesure qu'il montait les degrés de l'échafaud, je reconnus tous mes anciens camarades, les fanandelles, comme disait Viremoutier. Seul lui, mon maître, n'était plus parmi eux. Un à un, les 37 pendus s'immobilisèrent. J'étais un tout autre personnage, et ce que je venais de voir devait rester à jamais gravé dans ma mémoire.
Louis-Marie décida de trouver la chevalière de Kergoès pour se jeter à ses pieds.
Tiens, voici mon pirate.
Je me mets sous votre protection.
Rappelle-toi bien que je ne pourrai pas te sauver encore une fois.
Je ne demande que l'honneur de vous servir jusqu'à la mort.
Maître Lesnevin, mon majordome, va te donner une livrée de service.
Et c'est de ce jour que la bonne fortune commença à me sourire.
Les clients du bon chien jaune. Adapté de Pierre-Marc Orlan, une fiction sonore réalisée par les 5e de l'Eure-et-Loir et l'association Longueur d'onde, sur une idée de leur enseignante Brigitte Niel Durando et avec le soutien du service patrimoine de la ville de Brest. Merci à l'association Antest de nous avoir guidés dans les eaux troubles de la rade à bord de Notre-Dame de Rumingol.